Germinier la Certeux, chapitre 10. Cet amour, heureux et non satisfait, produisit dans l'être physique de Germinie un singulier phénomène physiologique. On aurait dit que la passion qui circulait en elle renouvelait et transformait son tempérament lymphatique. Il ne lui semblait plus puiser la vie comme autrefois, goutte à goutte, à une source avare. Une force, généreuse et pleine, lui coulait dans les veines. Le feu d'un sang riche lui courait dans le corps. Elle sentait une chaude santé la remplir, et il lui passait des joies de vivre qui battaient des ailes dans sa poitrine comme un oiseau dans du soleil. Une merveilleuse animation lui était venue. La misérable énergie nerveuse qui la soutenait avait fait place à une activité bien portante, à une allégresse bruyante, remuante, débordante. Elle ne connaissait plus ses anciennes faiblesses, l'accablement, la prostration, l'assoupissement, les molles paresses. Ces matins, si lourds et si engourdis, étaient aujourd'hui des réveils vifs et clairs qui s'ouvraient en une seconde à la gaieté du jour. Elle s'habillait en hâte, folâtrement. Ses doigts prestes allaient tout seuls, et elle s'étonnait d'être si vive, si pleine d'entrain, à ces heures défaillantes de l'avant-déjeuner, où elle s'était sentie si souvent le cœur sur les lèvres. Et toute la journée, c'était en elle la même bonne humeur du corps, la même gaieté dans le mouvement. Il lui fallait toujours aller, marcher, courir, agir, se dépenser. Par instants, ce qu'elle avait vécu lui paraissait éteint. Les sensations d'être qu'elle avait éprouvées jusque-là se reculaient pour elle dans le lointain d'un songe et dans le fond d'une mémoire endormie. Le passé était derrière elle, comme si elle l'avait traversé avec le voile d'un évanouissement et l'inconscience d'une somnambule. C'était la première fois qu'elle avait le sentiment, l'impression à la fois âpre et douce, violente et divine, du jeu de la vie éclatant dans sa plénitude, sa régularité, sa puissance. Elle montait et descendait pour un rien. Sur un mot de mademoiselle, elle dégringolait les 5 étages. Quand elle était assise, ses pieds dansaient sur le parquet. Elle frottait, nettoyait, rangeait, battait, secouait, lavait, sans repos ni trêve, toujours à l'ouvrage, remplissant l'appartement de ses allées et de ses venues, du tapage incessant de sa personne. « Mon Dieu !» lui disait sa maîtresse, étourdie comme par le bruit d'un enfant. « Es-tu bousculante, Germinie ? L'es-tu assez ?» Un jour, en entrant dans la cuisine de Germinie, mademoiselle vit un peu de terre dans une boîte à cigares posée dans le plomb. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» lui dit-elle. « C'est du gazon que j'ai semé pour voir, » fit Germinie. « Tu aimes donc le gazon maintenant ? Il ne te manque plus que d'avoir des serins. » Chapitre 11. Au bout de quelques mois, la vie, toute la vie de Germinie, appartint à la crémière. Le service de mademoiselle n'était guère assujettissant et lui prenait bien peu de temps. Un merlan, une côtelette, c'était toute la cuisine à faire. Le soir, mademoiselle aurait pu la garder auprès d'elle pour lui tenir compagnie. Elle aimait mieux l'envoyer promener, la pousser dehors, lui faire prendre un peu d'air, de distraction. Elle ne lui demandait que d'être rentrée à 10 heures pour l'aider à se mettre au lit. Et encore, quand Germinie se trouvait en retard, mademoiselle se déshabillait et se couchait fort bien toute seule. Toutes ces heures que lui laissait sa maîtresse, Germinie vint les vivre et les passer dans la boutique. Elle descendait maintenant à la crèmerie dès le matin, à l'ouverture des volets que la plupart du temps elle rentrait, prenait son café au lait, restait jusqu'à 9 heures, remontait pour le chocolat de mademoiselle. Et du déjeuner au dîner, elle trouvait moyen de revenir 2 ou 3 fois, s'attardant et bavardant dans l'arrière-boutique pour la moindre commission. « Quel piborgne tu fais !» lui disait mademoiselle avec une voix qui grognait et un regard qui souriait. À 5h30, le petit dîner desservi, elle descendait 4 à 4 les escaliers, s'installait chez la mère Jupillon, y attendait 10 heures, regrimpait les 5 étages et en 5 minutes déshabillait sa maîtresse qui se laissait faire, tout en étant un peu étonnée de la voir si pressée d'aller se coucher. Elle se rappelait le temps où Germinie avait la manie de porter son sommeil de fauteuil en fauteuil et de ne jamais vouloir monter à sa chambre. La bougie soufflée fumait encore sur la table de nuit de mademoiselle que Germinie était déjà chez la crémière, cette fois pour jusqu'à 1 heure. Elle ne partait souvent que quand un sergent de ville, voyant de la lumière, cognait au volet et faisait fermer. Pour être toujours là et avoir le droit de toujours y être, pour s'incruster dans cette boutique, ne jamais quitter des yeux l'homme de son amour, le couver, le garder, se frotter perpétuellement à lui, elle s'était faite la domestique de la maison. Elle balayait la boutique, elle préparait la cuisine de la mère et la pâtée des chiens. Elle servait le fils, elle faisait son lit, elle brossait ses habits, elle cirait ses chaussures, heureuse et fière de toucher à ce qu'il touchait, émue de mettre la main où il mettait son corps, prête à baiser sur le cuir de ses bottes la boue qui venait de lui. Elle faisait l'ouvrage, elle tenait la boutique, elle servait les pratiques. Madame Jupillon se reposait de tout sur elle. Et tandis que la bonne fille travaillait et suait, la grosse femme, se donnant sur sa porte de majestueux loisirs de rentière, échouée sur une chaise en travers du trottoir, humant la fraîcheur de la rue, tâtait et retâtait sous son tablier, dans sa poche de marchande, ce délicieux argent de gain, l'argent de la vente qui sonne si doux à l'oreille du petit commerce de Paris, que le boutiquier retiré reste tout mélancolique au premier jour de n'en avoir plus sous les doigts le tintement et le frétillement. Chapitre 12. Quand le printemps fut venu, si nous allions à l'entrée des champs, disait presque tous les soirs Germinie à Jupillon. Jupillon mettait sa chemise de flanelle à carreaux rouges et noirs, sa casquette en velours noir. Et il partait pour ce que les gens du quartier appellent l'entrée des champs. Il montait la chaussée Clignancourt et, avec le flot des Parisiens de faubourg, se pressant à aller boire un peu d'air, il marchait vers ce grand morceau de ciel, se levant tout droit des pavés, au haut de la montée, entre les 2 lignes des maisons, et tout vide quand un omnibus n'en débouchait pas. La chaleur tombait, les maisons n'avaient plus de soleil qu'à leur fête et à leur cheminée. Comme d'une grande porte ouverte sur la campagne, il venait du bout de la rue, du ciel, un souffle d'espace et de liberté. Au Château Rouge, il trouvait le premier arbre, les premières feuilles. Puis, à la rue du Château, l'horizon s'ouvrait devant eux dans une douceur éblouissante. La campagne, au loin, s'étendait, étincelante et vague, perdue dans le poudroiement d'or de 7 heures. Tout flottait dans cette poussière de jour, que le jour laisse derrière lui sur la verdure, qu'il efface, et les maisons, qu'il fait rose. Il descendait, suivait le trottoir charbonné de jeux de marelles, de longs murs par-dessus lesquels passait une branche, des lignes de maisons brisées, espacées de jardins. À leur gauche, se levaient des têtes d'arbres toutes pleines de lumière, des bouquets de feuilles transpercés du soleil couchant qui mettaient des raies de feu sur les barreaux des grilles de fer. Après les jardins, ils passaient les palissades, les enclos à vendre, les constructions jetées en avant dans les rues projetées, et tendant au vide leurs pierres d'attente, les murailles pleines à leurs pieds de tas de culs de bouteilles, de grandes et plates maisons de plâtre, aux fenêtres encombrées de cages et de linge, avec l'Y d'un plomb à chaque étage, des entrées de terrain aux apparences de basse-cour, avec des tertres broutés par des chèvres. Ça et là, ils s'arrêtaient, sentaient les fleurs, l'odeur d'un maigre lilas poussant dans une étroite cour. Germinie cueillait une feuille en passant et la mordillait. Des vols d'hirondelles, joyeux, circulaires et fous, tournaient et se nouaient sur sa tête. Les oiseaux s'appelaient. Le ciel répondait aux cages. Elle entendait tout chanter autour d'elle. Et elle regardait d'un œil heureux les femmes en camisole aux fenêtres, les hommes en manches de chemise dans les jardinets, les mères sur le pas des portes avec de la marmaille entre les jambes. La descente finissait, le pavé cessait. À la rue succédait une large route, blanche, crayeuse, poudreuse, faite de débris, de plâtras, d'émiettements de chaux et de briques, effondrées, sillonnées par les ornières, luisantes au bord, que font le fer de grosses roues et l'écrasement des charrois de pierres de taille. Alors commençait ce qui vient où Paris finit, ce qui pousse où l'herbe ne pousse pas, un de ces paysages d'aridité que les grandes villes créent autour d'elles. Cette première zone de banlieue intramuros où la nature est tarie, la terre usée, la campagne semée d'écailles d'huîtres. Ce n'était plus que des terrains à demi-clos, montrant des charrettes et des camions, les brancards en l'air sur le ciel, des chantiers à scier des pierres, des usines en planches, des maisons d'ouvriers en construction, trouées et tout à jour, portant le drapeau des maçons. Des landes de sable gris et blanc, des jardins de maraîchers tirés au cordeau tout en bas des fondrières, vers lesquels descend, en coulée de pierrailles, le remblayage de la route. Bientôt se dressait le dernier réverbère pendu à un poteau vert. Du monde allait et venait toujours. La route vivait et amusait l'œil. Germinie croisait des femmes portant la canne de leur mari, des lorettes en soie aux bras de leurs frères en blouse, des vieilles en madras se promenant, avec le repos du travail, les bras croisés. Des ouvriers tiraient leurs enfants dans de petites voitures, des gamins revenaient avec leurs lignes de pêcher à Saint-Ouen, des gens traînaient au bout d'un bâton des branches d'acacia en fleurs. Quelquefois, une femme enceinte passait, tendant les bras devant elle à un tout petit enfant, et mettait sur un mur l'ombre de sa grossesse. Tous allaient tranquillement, bien heureusement, d'un pas qui voulait s'attarder, avec le dandinement allègre et la paresse heureuse de la promenade. Personne ne se pressait, et sur la ligne toute plate de l'horizon, traversée de temps en temps par la fumée blanche d'un train de chemin de fer, les groupes de promeneurs faisaient des taches noires, presque immobiles, au loin. Ils arrivaient derrière Montmartre à ces espèces de grands fossés, à ces carrés en contrebas où se croisent de petits sentiers foulés et gris. Un peu d'herbe était là, frisée, jaunie et veloutée par le soleil, qu'on apercevait se couchant tout en feu dans les entre-deux des maisons. Et Germinie aimait à y retrouver les cardeuses de matelas au travail, les chevaux d'écarissage pâturant la terre pelée, les pantalons garance des soldats jouant aux boules, les enfants enlevant un cerf-volant noir dans le ciel clair. Au bout de cela, l'on tournait pour aller traverser le pont de chemin de fer par ce mauvais campement de chiffonniers, le quartier des Limousins du bas de Clignancourt. Il passait vite contre ces maisons bâties de démolitions volées et suant les horreurs qu'elles cachent. Ces huttes, tenant de la cabane et du terrier, effrayaient vaguement Germinie. Elle y sentait tapis tous les crimes de la nuit. Mais aux fortifications, son plaisir revenait. Elle courait s'asseoir avec Jupillon sur le talus. À côté d'elle étaient des familles en tas, des ouvriers couchés à plat sur le ventre, de petits rentiers regardant les horizons avec une lunette d'approche, des philosophes de misère, arc-boutés des deux mains sur leurs genoux, l'habit gras de vieillesse, le chapeau noir aussi roux que leur barbe rousse. L'air était plein de bruit d'orgue. Au-dessous d'elle, dans le fossé, des sociétés jouaient aux quatre coins. Devant les yeux, elle avait une foule bariolée, des blouses blanches, des tabliers bleus d'enfants qui couraient, un jeu de bagues qui tournait, des cafés, des débits de vin, des fritureries, des jeux de macarons, des tirs à demi cachés dans un bouquet de verdure d'où s'élevaient des mâts aux flammes tricolores. Puis au-delà, dans une vapeur, dans une brume bleuâtre, une ligne de tête d'arbre dessinait une route. Sur la gauche, au-dessus d'une file de maisons qui s'effaçait, le disque du soleil se couchant sur Saint-Ouen était d'un feu couleur cerise et laissait tomber dans le bas du ciel gris comme des colonnes rouges qui le portaient en tremblant. Souvent, le ballon d'un enfant qui jouait passait une seconde sur cet éblouissement. Il descendait, passait la porte, longeait les débits de saucissons de Lorraine, les marchands de gaufres, les cabarets en planches, les tonnelles sans verdure et au bois encore blanc, où un pêle-mêle d'hommes, de femmes, d'enfants mangeaient des pommes de terre frites, des moules et des crevettes, et ils arrivaient au premier champ, à la première herbe vivante. Sur le bord de l'herbe, il y avait une voiture à bras chargée de pain d'épices et de pastilles de menthe, et une marchande de coco vendait à boire sur une table dans le sillon. Étrange campagne où tout se mêlait, la fumée de la friture à la vapeur du soir, le bruit des palets d'un jeu de tonneaux au silence versé du ciel, l'odeur de la poudrette à la senteur des blés verts, la barrière à l'île et la foire à la nature. Germinie en jouissait pourtant. Et poussant Jupillon plus loin, marchant juste au bord du chemin, elle se mettait à passer, en marchant, ses jambes dans les blés pour sentir sur ses bas leur fraîcheur et leur chatouillement. Quand il revenait, elle voulait remonter sur le talus. Il n'y avait plus de soleil. Le ciel était gris en bas, rose au milieu, bleuâtre en haut. Les horizons s'assombrissaient, les verdures se fonçaient, s'assourdissaient, les toits de zinc des cabarets prenaient des lumières de lune, des feux commençaient à piquer l'ombre, la foule devenait grisâtre, les blancs de linge devenaient bleus. Tout peu à peu s'effaçait, s'estompait, se perdait dans un reste mourant de jour sans couleur, et de l'ombre qui s'épaississait commençait à monter, avec le tapage des crécelles, le bruit d'un peuple qui s'anime à la nuit et du vin qui commence à chanter. Sur le talus, le haut des grandes herbes se balançait sous la brise qui les inclinait. Germinie se décidait à partir. Elle revenait, toute remplie de la nuit tombante, s'abandonnant à l'incertaine vision des choses entrevues, passant les maisons sans lumière, revoyant tout sur son chemin, comme pâlie, lassée par la route dure à ses pieds, et contente d'être lasse, lente, fatiguée, défaillante à demi, et se trouvant bien. Au premier réverbère allumé de la rue du Château, elle tombait d'un rêve sur le pavé. Chapitre 13. Madame Jupillon avait, quand elle voyait Germinie, une physionomie de bonheur. Quand elle l'embrassait, des effusions. Quand elle lui parlait, des caresses de la voix. Quand elle la regardait, des douceurs de regard. La bonté de l'énorme femme semblait, avec elle, s'abandonner à l'émotion, à la tendresse, à la confiance d'une sorte de tendresse maternelle. Elle faisait entrer Germinie dans la confidence de ses contes de marchande, de ses secrets de femme, du fond le plus intime de sa vie. Elle semblait se livrer à elle comme à une personne de son sang qu'on initie à des intérêts de famille. Quand elle parlait d'avenir, il était toujours question de Germinie comme de quelqu'un dont elle ne devait être jamais séparée et qui faisait partie de la maison. Souvent, elle laissait échapper de certains sourires discrets et mystérieux, des sourires qui avaient l'air de tout voir et de ne pas se fâcher. Quelquefois aussi, quand son fils était assis à côté de Germinie, arrêtant tout à coup sur eux des yeux qui se mouillaient, des yeux de mère, elle embrassait le couple d'un regard qui semblait unir et bénir les deux têtes de ses enfants. Sans jamais parler, sans prononcer un mot qui pût être un engagement, sans s'ouvrir ni se lier, et tout en répétant que son fils était encore bien jeune pour entrer en ménage, elle encouragea les espérances et les illusions de Germinie par l'attitude de toute sa personne, ses airs de secrète indulgence et de complicité de cœur, par ses silences où elle semblait lui ouvrir les bras d'une belle-mère. Et déployant tous ses talents de fausseté, usant de ses mines de sentiments, de sa finesse bon enfant, de cette ruse ronde et enveloppée qu'ont les gens gras, la grosse femme arrivait à faire tomber devant l'assurance la promesse tacite de ce mariage, les dernières résistances de Germinie, qui à la fin se laissait arracher par l'ardeur du jeune homme ce qu'elle croyait donner d'avance à l'amour du mari. Dans tout ce jeu, la crémière n'avait voulu qu'une chose, s'attacher et conserver une domestique qui ne lui coûtait rien. Chapitre 14. Comme Germinie descendait un jour l'escalier de service, elle entendit une voix l'appeler par-dessus la rampe, et Adèle lui criait de lui remonter 2 sous de beurre et 10 sous d'absinthe. « Ah, tu t'assieras bien 1 minute, par exemple !» lui dit Adèle quand elle lui rapporta l'absinthe et le beurre. « On ne te voit plus, tu n'entres plus. Voyons, tu as bien le temps d'être avec ta vieille. » C'est moi qui ne pourrais pas vivre avec une figure d'antéchrist comme ça. Reste donc, c'est la maison sans ouvrage ici aujourd'hui. Il n'y a pas le sou, madame est couchée. Toutes les fois qu'il n'y a pas d'argent, elle se couche, madame. Elle reste au lit toute la journée lire des romans. Veux-tu de ça ? Et elle lui offrit son verre d'absinthe. Non, c'est vrai ? Toi, tu ne bois pas ? C'est drôle de ne pas boire. T'as bien tort. « Dis donc, tu serais bien gentille de me faire un mot pour mon chéri. Labourieux, tu sais bien, je t'en ai parlé. Tiens, v'là la plume à madame, et de son papier qui sent bon. Y es-tu ? En v'là un vrai, ma chère, cet homme-là. Il est dans la boucherie, je t'ai dit. Ah, par exemple, il ne faut pas le contrarier. Quand il vient de boire un verre de sang après avoir tué ses bêtes, il est comme fou. Et si vous l'obstinez... Ah, dame, il cogne. Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est d'être fort qu'il est comme ça. Si tu le voyais se taper sur la poitrine des coups à tuer un bœuf et vous dire « Ça, c'est un mur !» Ah, c'est un monsieur, celui-là. Soigne-y sa lettre, hein, que ça l'entortille. Dis-lui des choses gentilles, tu sais, et un peu triste, il adore ça. Au spectacle, il n'aime que quand on pleure. Mais que c'est toi qui écrives à un amoureux. Germini se mit à écrire. « Dis donc, Germini, tu ne sais pas. Une drôle d'idée qui a passé par la tête de madame. Est-ce curieux des femmes comme ça, qui peuvent aller dans le plus grand, qui peuvent tout avoir, se payer des rois si ça leur va ? Et il n'y a pas à dire, c'est que quand on est comme madame, quand on a ce corps-là, et puis avec des affutiaux comme elles s'en mettent tout plein, tout leur tralala de robe, de la dentelle partout, enfin tout, qu'est-ce que tu veux qu'on y résiste ? Et si ce n'est pas un monsieur, et si c'est quelqu'un comme nous, juge comme cela les pince encore plus. C'est ça qui lui monte le coco. Une femme en velours. Oui, ma chère, figure-toi. V'là-t-il pas que madame est toquée de ce gamin de Jupillon ? Il ne nous manquait plus que ça pour crever de faim ici. » Germini, la plume levée sur la lettre commencée, regardait Adèle en la dévorant des yeux. « Tu en restes de là, n'est-ce pas ?» dit Adèle en lampant et savourant l'absinthe à petites gorgées, la figure allumée de joie devant le visage décomposé de Germini. « Ah ! Le fait est que c'est cocasse ! Mais pour vrai, c'est vrai, je t'en flanque mon billet. Elle a remarqué le gamin sur le pas de la boutique l'autre jour en revenant des courses. Elle est entrée deux ou trois fois sous prétexte d'acheter quelque chose. Elle doit se faire apporter de la parfumerie. « Je crois, demain. »« Ah, basse, n'est-ce pas ? Ça les regarde. »« Eh bien, et ma lettre ? Ça t'embête ce que je t'ai dit ? Tu faisais ta bégueule. »« Moi, je ne savais pas. »« Ah, bien, c'est ça, nous y sommes. »« Ce que tu me disais pour le petit... »« Je crois bien que tu ne voulais pas qu'on y touche. »« Farceuse !» Et sur un geste de dénégation de Germini, « Va donc, va donc !» reprit Adèle. « Qu'est-ce que ça me fait ? Un enfant que, si on le mouchait, il lui sortirait du lait. Merci, ce n'est pas mon genre. Enfin, ce sont tes affaires. Voyons maintenant ma lettre, hein ?» Germini se pencha sur la feuille de papier. Mais elle avait la fièvre. Ses doigts nerveux faisaient cracher la plume. « Tiens, » fit-elle en la rejetant au bout de quelques instants. « Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je t'écrirai cela un autre jour. » « Comme tu voudras, ma petite. Mais j'y compte. Viens donc demain. Je te raconterai les farces de madame. Nous rirons. » Et la porte fermée, Adèle se mit à pouffer de rire. Il ne lui en avait coûté qu'une blague pour avoir le secret de Germini. Chapitre 15. L'amour n'avait été pour le jeune Jupillon que la satisfaction d'une certaine curiosité du mal, cherchant dans la connaissance et la possession d'une femme le droit et le plaisir de la mépriser. Cet homme, sortant de l'enfance, avait apporté à sa première liaison, pour toute ardeur et toute flamme, les froids instincts de polissonnerie qu'éveillent chez les enfants les mauvais livres, les confidences de camarades, les conversations de pension, le premier souffle d'impureté qui déflore le désir. Ce que le jeune homme met autour de la femme qui lui cède, ce dont il la voile, les caresses, les mots aimants, les imaginations de tendresse, rien de cela n'existait pour Jupillon. La femme n'était pour lui qu'une image obscène. Et une passion de femme lui paraissait uniquement je ne sais quoi de défendu, d'illicite, de grossier, de cynique et de drôle. Une chose excellente pour la désillusion et l'ironie. L'ironie. L'ironie basse, lâche et mauvaise du bas peuple. C'était tout ce garçon. Il incarnait le type de ces Parisiens qui porte sur la figure le scepticisme gouailleur de la grande ville de blagues où ils sont nés. Le sourire, cet esprit et cette malice de la physionomie parisienne étaient toujours chez lui moqueurs, impertinents. Jupillon avait la gaieté de la bouche méchante, presque de la cruauté aux deux coins des lèvres retroussées et tressaillantes de mouvements nerveux. Sur son visage pâle, des pâleurs que renvoie au teint l'eau forte mordant le cuivre. Dans ses petits traits, nets, décidés, effrontés, se mêlaient la crânerie, l'énergie, l'insouciance, l'intelligence, l'impudence, toutes sortes d'expressions coquines qu'adoucissait chez lui, à de certaines heures, un air de câlinerie féline. Son état de coupeur de gants, il s'était arrêté à la ganterie après deux ou trois essais malheureux d'apprentissage divers. L'habitude de travailler à la vitrine, d'être un spectacle pour les passants, avait donné à toute sa personne un aplomb et des élégances de poseur. À l'atelier sur la rue, avec sa chemise blanche, sa petite cravate noire à la collin, son pantalon serré sur les reins, il avait pris les dandinements, les prétentions de tenue, les grâces canailles de l'ouvrier regardé. Et de douteuses élégances, l'arrêt au milieu de la tête, les cheveux sur les tempes, des cols de chemise rabattus lui découvrant tout le cou, la recherche des apparences et des coquetteries féminines, lui donnait une tournure incertaine que faisait plus ambiguë sa figure imberbe et seulement tachée de deux petits pinceaux de moustache. Ses traits sans sexe, où la passion et la colère mettaient tout le mauvais d'une mauvaise petite tête de femme. Mais pour Germini, tous ces airs et ce genre de jupillon étaient de la distinction. Ainsi fait, n'ayant rien en lui pour aimer, incapable de se laisser attacher même par ses sens, Jupillon se trouva tout embarrassé et tout ennuyé devant cette adoration qui s'enivrait d'elle-même et dont la fureur allait toujours croissant. Germini l'assommait. Il la trouvait ridicule dans l'humiliation, comique dans le dévouement. Il en était là, dégoûté, insupporté. Il avait assez de son amour, assez de sa personne. Et il ne tarda pas à s'en écarter, sans charité, sans pitié. Il se sauva d'elle. Il échappa à ses rendez-vous. Il prétexta des contretemps, des courses à faire, un travail pressé. Le soir, elle l'attendait. Il ne venait pas. Elle le croyait occupé. Il était à quelques billards borgnes, à quelques balles de barrière. Chapitre 16. C'était bal à la Boule Noire, un jeudi. On dansait. La salle avait le caractère moderne des lieux de plaisir du peuple. Elle était éclatante d'une richesse fausse et d'un luxe pauvre. On y voyait des peintures et des tables de marchands de vin, des appareils de gaz doré et des verres à boire un poison d'eau-de-vie, du velours et des bancs en bois, les misères et la rusticité d'une guinguette dans le décor d'un palais de carton. Des lambrequins de velours grenat avec un galon d'or pendus aux fenêtres se répétaient économiquement en peinture sous les glaces éclairées d'un bras à trois lumières. Au mur, dans de grands panneaux blancs, des pastorales de boucher, cerclées d'un cadre peint, alternaient avec les saisons de Prudhon, étonné d'être là. Et sur les dessus des fenêtres et des portes, des amours hydropiques jouaient entre cinq roses décollées d'un pot de pommade de coiffeur de banlieue. Des poteaux carrés, tachés de maigres arabesques, soutenaient le milieu de la salle, au centre de laquelle une petite tribune octogone portait l'orchestre. Une barrière de chêne à hauteur d'appui et qui servait de dossier à une maigre banquette rouge enfermait la danse. Et contre cette barrière, en dehors, des tables peintes en verre avec des bancs de bois se serraient sur deux rangs et entouraient le bar avec un café. Dans l'enceinte de la danse, sous le feu aigu et les flammes dardées du gaz, étaient toutes sortes de femmes vêtues de lainage sombre, passées et flétries, des femmes en bonnet de tulle noire, des femmes en paletot noir, des femmes en caraco élimées et râpées aux coutures, des femmes engoncées dans la palatine en fourrure des marchandes en plein vent et des boutiquières d'allée. Au milieu de cela, pas un col qui encadra la jeunesse des visages, pas un bout de jupon clair s'envolant du tourbillon de la danse, pas un réveillon de blanc dans ces femmes sombres, jusqu'au bout de leurs bottines ternes, et tout habillées des couleurs de la misère. Cette absence de linge mettait dans le bal un deuil de pauvreté. Elle donnait à toutes ces figures quelque chose de triste et de sale, d'éteint, de terreux, comme un vague aspect sinistre où se mêlait le retour de l'hôpital au retour du mont-de-piété. Une vieille en cheveux, l'arrêt sur le côté de la tête, passait devant les tables une corbeille remplie de morceaux de gâteaux de Savoie et de pommes rouges. De temps en temps, la danse, dans son branle et son tournoiement, montrait un brassal, le type juif d'une vendeuse d'éponges de la rue, des doigts rouges au bout de mitaines noires, une figure bise à moustache, une sous-jupe tachée de la crotte de l'avant-veille, une crinoline d'occasion forcée toute bossue, de l'indienne de village à fleurs, un morceau de défroc de femme entretenue. Les hommes avaient le paletot, la petite casquette flasque rabattue par derrière, le cache-nez de laine dénoué et pendant dans le dos. Ils invitaient les femmes en les tirant par les rubans de leur bonnet, volant derrière elles. Quelques-uns, en chapeau, en redingote, en chemise de couleur, avaient un air de domesticité insolente et d'écurie de grande maison. Tout sautait et s'agitait. Les danseuses se démenaient, tortillaient, cabriolaient, animées, pataudes et déchaînées, sous le coup de fouet d'une joie bestiale. Et dans les avant-deux, l'on entendait des adresses se donner. Impasse du dépotoir. Ce fut là que Germini entra, au moment où finissait le quadrille sur l'air de « La casquette du père Bugeaud », dans lequel les cymbales, les grelots de poste, le tambour avaient donné à la danse l'étourdiment et la folie de leur bruit. D'un regard, elle embrassa la salle, tous les hommes ramenant leurs danseuses à la place marquée par leur casquette. On l'avait trompée. Il n'y était pas. Elle ne le vit pas. Cependant, elle attendit. Elle entra dans l'enceinte du bal et s'assit, en tâchant de ne pas avoir l'air trop gênée, sur le bord d'une banquette. À leur bonnet de linge, elle avait jugé que les femmes assises en file à côté d'elle étaient des domestiques comme elle. Des camarades l'intimidaient moins que ces petites filles du bal, en cheveux et enfilées, les mains dans les poches de leur paletot, l'œil effronté, la bouche chantonnante. Mais bientôt, elle éveilla, même sur son banc, une attention malveillante. Son chapeau, une douzaine de femmes seulement dans le bal portaient chapeau. Son jupon à dents, dont le blanc passait sous sa robe, la broche d'or de son châle, firent autour d'elle une curiosité hostile. On lui jeta des regards, des sourires qui lui voulaient du mal. Toutes les femmes avaient l'air de se demander d'où sortait cette nouvelle venue et de se dire qu'elle venait prendre les amants des autres. Des amis qui se promenaient dans la salle, noués comme pour une valse, avec leurs mains glissées à la taille, en passant devant elle, lui faisaient baisser les yeux, puis s'éloignait avec des haussements d'épaules en tournant la tête. Elle changeait de place. Elle retrouvait les mêmes sourires, la même hostilité, les mêmes chuchotements. Elle alla jusqu'au fond de la salle. Tous ses yeux de femme l'y suivaient. Elle se sentait enveloppée de regards, de méchanceté et d'envie, depuis le bas de sa robe jusqu'aux fleurs de son chapeau. Elle était rouge. Par moments, elle craignait de pleurer. Elle voulait s'en aller, mais le courage lui manquait pour traverser la salle toute seule. Elle se mit à regarder machinalement une vieille femme faisant lentement le tour de la salle d'un pas silencieux comme le vol d'un oiseau de nuit qui tourne. Un chapeau noir, couleur de papier brûlé, enfermait ses bandeaux de cheveux grisonnants. De ses épaules d'homme, carrées et remontées, pendait un tartan écossais aux couleurs mortes. Arrivée à la porte, elle jeta un dernier regard dans la salle et l'embrassa toute de l'œil d'un vautour qui cherche de la viande et n'en trouve pas. Tout à coup, on cria. C'était un garde de Paris qui jetait à la porte un petit jeune homme essayant de lui mordre les mains et se cramponnant aux tables contre lesquelles, en tombant, il faisait le bruit sec d'une chose qui se casse. Comme Germinie détournait la tête, elle aperçut Jupillon. Il était là, dans un rentrant de fenêtre, à une table verte, fumant entre deux femmes. L'une était une grande blonde, aux cheveux de chanvre rares et frisottés, la figure plate et bête, les yeux ronds. Une chemise de flanelle rouge lui plissait au dos, et elle faisait sauter avec les deux mains les deux poches d'un tablier noir sur sa jupe marron. L'autre, petite, noiraude, toute rouge de s'être débarbouillée au savon, était encapuchonnée avec une coquetterie de harengère, dans une capeline de tricot blanc à bordure bleue. Jupillon avait reconnu Germinie. Quand il la vit se lever et venir à lui, les yeux fixes, il se pencha à l'oreille de la femme à la capeline et se carrant dans sa pose, les deux coudes sur la table, il attendit. « Tiens, te v'là !» fit-il quand Germinie fut devant lui, immobile, droite, muette. En voilà une de surprise. Garçon, un autre saladier. Et vidant le saladier de vin sucré dans le verre des deux femmes, voyons, reprit-il, ne fais pas ta tête, mets-toi là. Et comme Germinie ne bougeait pas, va donc, c'est des dames à mes amis, demande-leur. Mélie, dit à l'autre femme la femme à la capeline avec sa voix de mauvaise gale. « Tu ne vois donc pas, c'est la mère à monsieur. Fais-y donc place à cette dame, puisqu'elle veut bien boire avec nous. » Germinie jeta à la femme un regard d'assassin. « Eh bien, quoi ? » reprit la femme. « Ça vous vexe, madame ? Excusez, fallait prévenir. Quel âge donc qu'elle se croit ? Hein, Mélie ? « Sapristi, tu les choisis jeunes, toi. Tu ne te gênes pas. » Jupillon souriait en dessous, se dandinait, ricanait en dedans. Toute sa personne laissait percer la joie lâche qu'ont les méchants à voir souffrir ceux qui souffrent de les aimer. « J'ai à te parler, à toi, pas ici, en bas, » lui dit Germinie. « Bien de l'agrément. Arrives-tu, Mélie ?» dit la femme à la capeline en rallumant un bout de cigare éteint, oublié par Jupillon sur la table, près d'un rond de citron. « Qu'est-ce que tu veux ?» fit Jupillon, remué malgré lui par l'accent de Germinie. « Viens !» Et elle se mit à marcher devant lui. Sur son passage, on se pressait, on riait. Elle entendait des voix, des phrases, un murmure de huées. Chapitre 17. Jupillon promit à Germinie de ne plus retourner au bal. Mais le jeune homme avait un commencement de réputation à la Bri-Lili dans ses bastringues de barrière, à la Boule Noire, à la Reine Blanche, l'Ermitage. Il était devenu le danseur qui fait lever les consommateurs des tables, le danseur qui suspend toute une salle à la semelle de sa botte, jetée à 2 pouces au-dessus de sa tête, le danseur, qu'invite et que rafraîchisse quelquefois, pour danser avec elle, les danseuses de l'endroit. Le bal, pour lui, n'était plus seulement le bal. C'était un théâtre, un public, une popularité, des applaudissements, le murmure flatteur de son nom dans des groupes, l'ovation d'une gloire de cancan dans le feu des quinquets. Le dimanche, il n'alla pas à la boule noire. Mais le jeudi qui suivit ce dimanche, il y retourna. Et Germinie, voyant bien qu'elle ne pouvait l'empêcher d'y aller, se décida à l'y suivre et à y rester tout le temps qu'il y restait. Assise à une table, au fond, dans le coin le moins éclairé de la salle, elle le suivait et le guettait des yeux pendant toute la contredanse. Et le quadrille fini, s'il tardait, elle allait le reprendre, le retirer presque de force, des mains et des caresses des femmes, s'obstinant à le tirailler, à le retenir par un jeu de méchanceté. Comme bientôt on l'a connue, l'injure autour d'elle ne fut plus vague, sourde, lointaine, comme au premier bal. Les paroles l'attaquèrent en face, les rires lui parlèrent tout haut. Elle fut obligée de passer ses 3 heures dans des risées qui la désignaient, la montraient du doigt, la nommaient, lui clouaient son âge sur la figure. Elle était à tout moment obligée d'essuyer ce mot « la vieille » que les jeunes drôlesses lui crachaient en passant par-dessus l'épaule. Encore celle-là la regardait-elle. Mais souvent, des danseuses invitées à boire par Jupillon, amenées par lui à la table où était Germinie, buvant le saladier de vin chaud qu'elle payait, restaient accoudées, la joue sur la main, paraissant ne pas voir qu'il y avait une femme là, avançant sur sa place comme sur une place vide, et ne lui répondant que quand elle leur parlait. Germinie eut tué ces femmes, que Jupillon lui faisait régaler, et qui la méprisaient tant qu'elle ne s'apercevait pas seulement de sa présence. Il arriva qu'à bout de souffrance, révoltée de tout ce qu'elle buvait là d'humiliation, elle eut l'idée de danser, elle aussi. Elle ne voyait que ce moyen de ne pas laisser son amant à d'autres, de le tenir toute la soirée, peut-être de l'attacher à son succès si elle avait la chance de réussir. Tout un mois, elle travailla en cachette pour arriver à danser. Elle répéta les figures, les pas. Elle força son corps, elle sua à chercher ses coups de rein, ses tours de jupe qu'elle voyait applaudir. Au bout de cela, elle se risqua. Mais tout la démonta et ajouta à sa gaucherie. Le milieu hostile dans lequel elle se sentait, les sourires d'étonnement et de pitié qui avaient couru sur les lèvres lorsqu'elle avait pris place dans l'enceinte de la danse. Elle fut si ridicule et si moquée qu'elle n'eut pas le courage de recommencer. Elle se renfonça sombrement dans son coin obscur, n'en sortant que pour aller chercher et ramener Jupillon avec la muette violence d'une femme qui arrache son homme au cabaret et le remporte par le bras. Le bruit se répandit bientôt dans la rue que Germinie allait à ses bals, qu'elle n'en manquait pas un. La fruitière, chez laquelle Adèle avait déjà bavardé, envoya son fils pour voir. Il revint en disant que c'était vrai, et raconta toutes les misères qu'on faisait à Germinie, et qu'il ne l'empêchait pas de revenir. Alors il n'y eut plus de doute dans le quartier sur les relations de la domestique de mademoiselle avec Jupillon, relations que quelques âmes charitables contestaient encore. Le scandale éclata, et en une semaine, la pauvre fille, traînée dans toutes les médisances du quartier, baptisée et saluée des plus sales noms de la langue des rues, tomba d'un coup, de l'estime la plus hautement témoignée, au mépris le plus brutalement affiché. Jusque-là, son orgueil, et il était grand, avait joui de ce respect, de cette considération qui entoure, dans les quartiers de Lorette, la domestique qui sert honnêtement une personne honnête. On l'avait habitué à des égards, à des déférences, à des attentions. Elle était part de ses camarades. Sa probité insoupçonnable, sa conduite dont il n'y avait rien à dire, sa position de confiance chez mademoiselle, ce qui rejaillissait sur elle de l'honorabilité de sa maîtresse, faisait que les marchands la traitaient sur un autre pied que les autres bonnes. On lui parlait la casquette à la main. On lui disait toujours « Mademoiselle Germini ». On se dépêchait de la servir. On lui avançait l'unique chaise de la boutique pour la faire attendre. Lors même qu'elle marchandait, on restait poli avec elle. Et on ne l'appelait pas râleuse. Les plaisanteries un peu trop vives s'arrêtaient devant elle. Elle était invitée au grand repas, aux fêtes de famille, consultée sur les affaires. Tout changea, dès que furent connues ses relations avec Jupillon, ses assiduités à la boule noire. Le quartier se vengea de l'avoir respectée. Les bonnes et hontées de la maison s'approchèrent d'elle comme d'une semblable. Une, dont l'amant était à Mazas, lui dit « Ma chère !» Les hommes l'abordèrent avec familiarité, la tutoyèrent du regard, du ton, du geste, de la main. Les enfants même, sur le trottoir, autrefois dressés à lui faire un beau serviteur, se sauvèrent d'elle comme d'une personne dont on leur avait dit d'avoir peur. Elle se sentait traitée sous la main, servie à la diable. Elle ne pouvait faire un pas sans marcher dans le mépris et recevoir sa honte sur la joue. Ce fut pour elle une horrible déchéance d'elle-même. Elle souffrit comme si on lui arrachait, lambeau à lambeau, son honneur dans le ruisseau. Mais à mesure qu'elle souffrait, elle se serrait contre son amour et se cramponnait à lui. Elle ne lui en voulait pas, elle ne lui reprochait rien. Elle s'y attachait par toutes les larmes que faisait pleurer son orgueil. Et toute repliée, resserrée sur sa faute, on la voyait dans cette rue où elle passait tout à l'heure fière et le front haut, aller furtive et fuyante, l'échine basse, le regard oblique, inquiète d'être reconnue, pressant le pas devant les boutiques qui lui balayaient leur médisance sur les talons. Chapitre 18. Jupillon se plaignait sans cesse de l'ennui de travailler pour les autres, de ne pas être à ses pièces, de ne pouvoir trouver dans la bourse de sa mère 1500 ou 1800 francs. Il ne demandait pas une plus grosse somme pour louer 2 chambres, au rez-de-chaussée, et monter un petit fonds de ganterie. Et déjà il faisait ses plans et ses rêves. Il s'établirait dans le quartier, quartier excellent pour son commerce, plein d'acheteuses et de gâcheuses de chevreaux à 5 francs. Au gant, il joindrait bientôt la parfumerie, les cravates. Puis, avec de gros bénéfices, son fonds revendu, il irait prendre un magasin rue Richelieu. Chaque fois qu'il parlait de cela, Germini lui demandait 1000 explications. Elle voulait savoir tout ce qu'il faut pour s'établir. Elle se faisait nommer les outils, les accessoires, indiquer leur prix, leur débitant. Elle l'interrogeait sur son état, son travail, si curieusement, si longuement, qu'à la fin, Jupillon, impatienté, finissait par lui dire « Qu'est-ce que ça te fait tout ça? L'ouvrage m'embête déjà assez, ne m'en parle pas !» Un dimanche, elle montait avec lui vers Montmartre. Au lieu de prendre par la rue Frochot, elle prit par la rue Pigalle. « Mais ce n'est pas par là !» lui dit Jupillon. « Je sais bien, » dit-elle. « Viens toujours !» Elle lui avait pris le bras et marchait en se détournant un peu de lui pour qu'il ne vît pas ce qui passait sur son visage. Au milieu de la rue Fontaine-Saint-Georges, elle l'arrêta brusquement devant 2 fenêtres de rez-de-chaussée et lui dit « Tiens !» Elle tremblait de joie. Jupillon regarda. Il vit entre les 2 fenêtres sur une plaque des lettres de cuivre qui brillaient. Magasin de ganterie, Jupillon. Il vit des rideaux blancs à la première fenêtre. À travers les carreaux de la seconde, il aperçut des casiers, des cartons, et devant, le petit établi de son état, avec les grands ciseaux, le pot à retaille et le couteau à piquer pour déborder les pots. « Ta clé est chez le portier, » lui dit-elle. Ils entrèrent dans la première pièce, dans le magasin. Elle se mit à vouloir tout lui montrer. Elle lui ouvrait les cartons et elle riait, puis poussant la porte de l'autre chambre. « Vois-tu, tu n'étoufferas pas là, comme sous la soupente de ta mère. Ça te plaît ? Oh, ce n'est pas beau, mais c'est propre. Je t'aurais voulu de l'acajou. Ça te plaît-il, cette descente de lit, là ? Et le papier ? Je n'y pensais plus. » Elle lui mit dans la main une quittance de loyer. « Tiens, c'est pour 6 mois. Ah, dame, il faut que tu te mettes tout de suite à gagner de l'argent. Voilà mes 4 sous de la caisse d'épargne finis du coup. Ah, tiens, laisse-moi m'asseoir. T'as l'air si content. Ça me fait un effet. Ça me tourne. Je n'ai plus de jambes. » Et elle se laissa glisser sur une chaise. Jupillon se pencha sur elle pour l'embrasser. Ah oui, il n'y en a plus, lui dit-elle, en lui voyant chercher de l'œil ses boucles d'oreilles. C'est comme mes bagues. Tiens, vois-tu, plus rien. Et elle lui montra ses mains dégarnies des pauvres bijoux qu'elle avait travaillé si longtemps à s'acheter. Ça a été le fauteuil, tout ça, vois-tu, mais il est tout craint. Et comme Jupillon restait devant elle, avec l'air d'un homme embarrassé qui cherche les phrases d'un remerciement, « Mais tu es tout drôle, qu'est-ce que tu as ?»« Ah, c'est pour ça !» Et elle lui montra la chambre. « T'es bête, je t'aime, n'est-ce pas ? Eh bien !» Germinie dit cela simplement, comme le cœur dit les choses sublimes. Chapitre 19. Elle devint enceinte. D'abord, elle douta. Elle n'osait le croire. Puis, quand elle fut certaine d'être grosse, une immense joie la remplit. Une joie qui lui noya l'âme. Son bonheur fut si grand et si fort qu'il étouffa d'un seul coup les angoisses, les craintes, le tremblement de pensée qui se mêle d'ordinaire à la maternité des femmes non mariées et leur empoisonne l'attente de l'enfantement. La divine espérance vivante est remuante en elle. L'idée du scandale de sa liaison découverte, de l'éclat de sa faute dans le quartier, l'idée de cette chose abominable qui l'avait fait toujours penser au suicide, le déshonneur, même la peur de se voir découverte par mademoiselle, d'être chassée par elle, rien de tout cela ne put toucher à sa félicité. Comme si elle l'eût déjà soulevé dans ses bras devant elle, l'enfant qu'elle attendait ne lui laissait rien voir que lui. Et se cachant à peine, elle portait presque fièrement, sous les regards de la rue, sa honte de femme dans l'orgueil et le rayonnement de la mère qu'elle allait être. Elle se désolait seulement d'avoir dépensé toutes ses économies, d'être sans argent, et en avance de plusieurs mois sur ses gages avec sa maîtresse. Elle regrettait amèrement d'être pauvre pour recevoir son enfant. Souvent, en passant rue Saint-Lazare, elle s'arrêtait devant un magasin de blanc, à l'étalage duquel étaient exposées des layettes d'enfants riches. Elle dévorait des yeux tout ce joli linge ouvragé et coquet, les bavettes de piqué, la longue robe à courte taille garnie de broderies anglaises, toute cette toilette de chérubins et de poupées. Une terrible envie, l'envie d'une femme grosse, la prenait de briser la glace et de voler tout cela. Derrière l'échafaudage de l'étalage, les commis, habitués à la voir stationner, se la montraient en riant. puis encore par instants dans ce bonheur qui l'inondait, dans ce ravissement de joie qui soulevait tout son être, une inquiétude la traversait. Elle se demandait comment le père accepterait son enfant. Deux ou trois fois, elle avait voulu lui annoncer sa grossesse et n'avait pas osé. Enfin un jour, lui voyant la figure qu'elle attendait depuis si longtemps pour lui tout dire, une figure où il y avait un peu de tendresse, elle lui avoua, en rougissant et comme en lui demandant pardon, ce qui la rendait si heureuse. « En voilà une idée !» fit Jupillon. Puis, quand elle l'eut assuré que ce n'était pas une idée, qu'elle était positivement grosse de 5 mois, « De la chance !» reprit le jeune homme. « Merci !» Et il jura. « Veux-tu me dire un peu qu'est-ce qui lui donnera la béquée à ce moineau-là ? » Oh, sois tranquille, il ne pâtira pas, ça me regarde. Et puis, ça sera si gentil. N'aie pas peur, on ne saura rien. Je m'arrangerai. Tiens, les derniers jours, je marcherai comme ça, la tête en arrière. Je ne porterai plus de jupons. Je me serrerai, tu verras. On ne s'apercevra de rien, je te dis. Un petit enfant, nous deux, songe donc. Enfin, puisque ça y est. « Ça y est, n'est-ce pas ?» fit le jeune homme. « Dis donc !» hasarda timidement Germinie. « Si tu le disais à ta mère !»« À maman ? » ?»« Ah non, par exemple, il faut que tu accouches. Ensuite de ça, nous apporterons le moutard à la maison. »